VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Conférence de l'ONU sur le climat à Paris, à moins de 36 heures de la clôture officielle, les représentants des 195 pays chargés de négocier un pacte universel contre le réchauffement climatique intensifient leurs efforts pour tenter de rapprocher leurs vues sur le partage du fardeau en matière d'action et de financement climatique. Au micro de Jean-Roger Bion, Aissatou Diouf, chargé de plaidoyer climat à l'ONG africaine ENDA, fait le point sur les discussions en cours.
Sur la question du financement, par exemple, toute la question pour l'après 2020 n'est pas encore tranchée. Les options sont encore entrecrochées, alors que pour nous, à 24 heures, il fallait que les ministres puissent prendre les décisions politiques qu'il faut et trancher ces questions-là. Sur la question de l'ambition de long terme, ça veut dire comment on peut arriver en 2050 à 100% d'énergie renouvelable également. Des pays comme l'Arabie Saoudite ne veulent pas entendre parler de la décarbonisation de l'économie pour le moment. Et malheureusement, le leadership qu'on attendait des États africains n'est pas encore venu. On attend encore en sursaut de dernière minute des ministres africains pour faire pencher ce brouillon de l'accord vers quelque chose de plus concret pour les communautés les plus impactées par le changement climatique.
Madame Dufay, est-ce qu'on peut se permettre de terminer cette conférence sur un constat d'échec?
Dans tous les cas, on ne veut pas d'un accord climaticide. C'est quoi un accord climaticide? C'est un accord à minima. Au lieu de régler des problèmes qui va mettre en avant les fausses solutions. Donc à quelques heures avec toute l'attente autour de la COP21, finir sur un accord à minima serait un échec pour l'ensemble des parties, pour l'ensemble des États qui sont ici présents à Paris.
Aissatou Diouf de l'ONG africaine ENDA, la COP21 à Paris. Face à une triple menace, pauvreté, insécurité et changement climatique, le Sahel en Afrique risque de basculer dans une situation chaotique, donnant éventuellement lieu à une nouvelle vague de migration. L'ONU a donc tiré la sonnette d'alarme, demandant mercredi aux donateurs un montant record de 2 milliards de dollars pour la région. Nani Talani nous en dit plus.
Chaque année, l'ONU appelle à davantage d'efforts en faveur des 9 pays de la bande semi-aride allant du Sénégal au Tchad. En 10 ans, la demande a augmenté 10 fois plus. Chaque année, pourtant, les fonds s'avèrent insuffisants. Le coordonnateur régional de l'ONU pour les questions humanitaires, Tony Lanzer, reconnaît la difficulté pour les gouvernements occidentaux d'accroître leur contribution à cause des crises multiples auxquelles ils font face. Mais ce serait tout à leur avantage, fait-il remarquer. À l'heure actuelle, des habitants partent à vélo de la Russie à la Norvège, dit-il, en référence aux réfugiés syriens arrivant en Europe. Au bout du compte, nous verrons des milliers, voire des dizaines de milliers de Sahéliens partir à la recherche d'une vie meilleure. Dans le pire des cas, ils seront contraints de fuir, a-t-il déclaré à l'agence Reuters. Les Nations Unies attirent l'attention sur la gravité de la situation, par exemple dans le bassin du lac Tchad, où les attaques de Boko Haram et les opérations des armées régionales pour contrer les islamistes ont déjà fait 2,5 millions de déplacés.
Au Burkina Faso, une unité mixte composée de gendarmes, policiers et militaires a remplacé le régiment de sécurité présidentielle RSP. L'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré dissoute après le putsch manqué de septembre à Ouagadougou. Selon des sources sécuritaires citées par l'AFP, la nouvelle unité appelée Groupement de sécurité et de protection républicaine GSPR est entrée en fonction la semaine dernière. C'est elle qui assurera désormais la sécurité du président de la République et des hautes personnalités de l'État. Le GSPR compte actuellement au moins 400 hommes et ses effectifs pourraient être portés à un total de 850, a souligné une source sécuritaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burundi, au moins 2 insurgés tués, 11 capturés depuis mardi dans la province de Rumonge. Tel est le bilan des premiers combats signalés dans cette région du sud-ouest du pays depuis le début de la crise fin avril, a annoncé le gouverneur de la province, Juvenal Bigirimana. Selon ce dernier, un groupe de 80 à 100 combattants est entré mardi soir dans la commune de Murambi. Les forces de sécurité sont allées à leur rencontre et des affrontements ont lieu depuis, a déclaré en substance le gouverneur de Rumonge. Initialement concentrés dans la capitale Bujumbura et dans les collines alentours, les combats entre les forces de sécurité et les insurgés s'étendent progressivement dans les provinces de l'intérieur du pays. Par ailleurs, une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples mène depuis le 7 décembre une enquête sur les violations des droits humains et autres exactions ayant lieu au Burundi, pays où les violences ont éclaté en avril 2015 suite à la controverse sur le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La délégation devra formuler des recommandations au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'issue de sa mission. Quel est l'intérêt de cette initiative à ce stade de la crise burundaise? Timothée Donangmaya a joint à Kigali Innocent Mouhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise.
Je ne comprends pas très bien quel est l'intérêt, parce que depuis tous ces mois où les gens qui tuent, qui torturent, qui font la chasse à l'homme dans le pays de tout ce qui ne leur ressemble pas, ne sont pas du même bord politique, ne se cachent pas pour tuer. Ça fait des mois que toutes ces choses-là se font devant toutes les caméras du monde entier. Ça fait des mois que des milliers de gens sont ramassés, que des centaines de gens sont tués, torturés, au vu, au su de tout le monde. Je ne comprends pas très bien que ce soit maintenant que la commission vienne, et je ne vois pas trop bien sur quoi elle vient enquêter. Il est vraiment plus que temps d'agir. Il y a une extermination à huis clos en cours dans notre pays, spécialement dans la capitale, envers tous ceux qui sont jeunes. Tout jeune est suspecté d'être un rebelle. C'est aussi simple que ça. Vous vous faites tuer juste parce que vous êtes jeune. Vous vous faites torturer juste parce que vous êtes jeune. Vous vous faites enlever juste parce que vous êtes jeune. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui font cela ne se cachent pas. C'est des autorités publiques connues, en uniforme. Ils annulent des gens contre le mur, les mitraillent tranquillement. Après, ils vont dire que c'était à la suite d'une poursuite. C'est terrible ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, au vu aussi du monde entier.
En même temps, Innocent, la violence semble cibler tout le monde. Des personnalités gouvernementales sont aussi visées.
Parce que pendant des mois, on a dit aux Burundais qu'il n'y avait pas d'autre façon de s'en tirer que de se défendre par les armes. Ça a commencé par des manifestations pacifiques qui ont été réprimées par la mitrailleuse, carrément, par la violence extrême. Et le monde entier, regardez, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent après? Aujourd'hui, pratiquement, c'est lui qui ne sait pas défendre son fils. C'est lui qui ne sait pas se défendre par les armes et tout simplement un idiot dans le contexte du Burundi aujourd'hui. La violence, évidemment, aujourd'hui, n'est plus le monopole des pouvoirs publics. Il y a également dans la société des groupes qui se sont organisés, qui attaquent la police, qui attaquent les personnalités publiques. Et c'est désastreux, c'est malheureux tout ça. On n'aurait pas dû en arriver là. On aurait dû arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Quand l'État a commencé à mitrailler des manifestants pacifiques, on aurait dû arrêter ça bien plus tôt que ça. Après, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent?
L'ONU a souligné cette semaine des risques de génocide au Burundi. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui face à la crise burundaise?
Dans cette sous-région, il y a une brigade d'intervention qui est censée intervenir dans les pays quand il y a des situations graves de violation des droits de l'homme ou des massacres. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a des moyens d'agir, l'Union africaine, etc. Mais encore une fois, nous savons que c'est des États, nous savons, nous connaissons tous les odeurs de ces choses-là. En deux mots, ça veut dire quand vous n'êtes pas capable de défendre votre peuple, vous avez tout le temps de mourir avant que les gens ne viennent compter vos cadavres et porter des jugements, faire des enquêtes. C'est terrible le message qu'on est en train d'envoyer au Burundi et à la région aujourd'hui.
Innocent Mouhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, il nous parlait depuis Kigali, au Rwanda. Génocide rwandais de 1994, Ladislas Ntaganzwa, l'un des 9 accusés encore recherchés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, chargé de juger les responsables du génocide, a été arrêté en République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la structure onusienne ayant remplacé le TPIR, qui a officiellement fermé ses portes le 1er décembre. Maire de Nyakizu, dans le sud du Rwanda, au moment du génocide, Ntaganzwa, 53 ans, est officiellement accusé d'avoir incité et participé au massacre de milliers de civils Tutsi sur le territoire de sa commune. Son dossier a été transféré en mai 2012 à la justice rwandaise par le TPIR. Les autorités de la RDC ont appréhendé hier Ladislas Ntaganzwa, a précisé le mécanisme pour les tribunaux internationaux de l'ONU sans préciser les circonstances de l'arrestation du suspect. Pour sa part, le ministre congolais de la justice, Alexis Tambwe Mwamba, déclare que les autorités veulent entendre le suspect qui est un chef FDLR dans l'est du pays. Une récompense de 5 millions de dollars était offerte pour l'arrestation de M. Ntaganzwa ainsi que les 8 autres accusés encore en fuite. Et pour terminer, actualité américaine critiquée au sein du Parti républicain pour la tempête qu'il a déclenchée avec ses propos sur les musulmans, Donald Trump a rappelé à ses nombreux détracteurs qu'ils pourraient se laisser tenter par une candidature en solitaire à la Maison-Blanche. La plupart des ténors du Parti républicain estiment maintenant que le milliardaire Donald Trump n'est pas un candidat acceptable. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.